Je passe à la présentation du conférencier de ce soir, donc Henri Vandamme. Henri Vandamme est né le 30 octobre 1946 à Uccle, en Belgique. Il est physicien, professeur à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris, l'ESPCI. Il est ingénieur agronome, docteur en sciences naturelles appliquées. En 1974, je retrace un tout petit peu sa carrière, mais en 1974, il a été détaché au Centre de recherche sur les solides à organisation cristalline imparfaite, le CRSOCI du CNRS à Orléans. Puis il a enseigné en 78, il a été chercheur en tout cas une année aux États-Unis comme visiting professor au département de chimie de l'Université du Wisconsin à Milwaukee. Entre 80 et 1980 et 1984, il est devenu responsable de l'équipe photophysico-chimie colloïdale du CRSOCI. En 85, il est devenu directeur de recherche au CNRS. Puis entre 85 et 90, il est devenu directeur du CRSOCI, laboratoire propre donc du CNRS. Entre 91 et 99, il a fondé et il a dirigé le Centre de recherche sur la matière divisée, le CRMD, qui est une unité mixte du CNRS et de l'Université d'Orléans. Et depuis 1999, il est professeur à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris et responsable du laboratoire de physico-chimie structurale et macromoléculaire de l'ESPCI. Henri Vandamme est spécialiste de nanomatériaux. Ses travaux portent sur les domaines de la physique et de la physico-chimie de la matière divisée et des interfaces. Je pense qu'il va nous en donner un peu plus d'explications que moi. Avec de fortes ouvertures interdisciplinaires vers la chimie, les sciences de l'ingénieur et plus marginalement la biologie. Il est l'auteur de plus d'une centaine de publications scientifiques dans des revues spécialisées nationales et internationales et il a déposé 3 brevets. Il a écrit également plusieurs articles de vulgarisation, notamment dans des revues comme Pour la science, et a participé à plusieurs ouvrages collectifs. J'en citerai quelques-uns. Fractal, avec M. Daoud, qui est paru dans la Juste Argile, ouvrage publié en l'honneur de Pierre-Gilles de Gennes, et qui a été publié aux éditions de Physique en 1995, qui a également été traduit en anglais. Il a également publié Physico-chimie et rhéologie des mélanges argile-eau, dans des grands écoulements naturels, la dynamique du tas de sable, introduction en suspension en géologie et en physique, publié aux éditions Semagref en 1997. Il a dirigé le rapport Nanomatériaux, qui a été publié par l'Observatoire français des techniques avancées en octobre 2001. Henri Vandamme a été membre du Comité national de la recherche scientifique, président de la section matière condensée, structure et dynamique entre 1995 et 2000. Il a été membre également du comité de programme génie des procédés chimiques, physiques et biotechnologiques du CNRS, membre du conseil scientifique du laboratoire central des ponts et chaussées. Il est actuellement membre du conseil scientifique de Ital Sémantique Group et membre du comité d'orientation du réseau national matériaux et procédés, le RMNP, qui dépend du ministère de la recherche et du ministère de l'industrie. Voilà. Henri Vandamme, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes. Je vous remercie.
Merci Monsieur Leroux. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai le plaisir d'inaugurer cette série de séances sur les nanotechnologies. Alors si vous êtes là aujourd'hui, vu le titre de la série, j'imagine que c'est parce que vous avez envie de voir de petites merveilles, et petites au sens propre du terme, puisque nanotechnologie comporte le préfixe nano, le milliardième, donc de petites merveilles dont la taille typique se situe aux alentours du milliardième de mètre du nanomètre. Et c'est vrai, la plupart des choses que je vais vous montrer, que ce soit des phénomènes, des processus scientifiques ou des dispositifs de type ingénierie, se situent dans cette échelle-là. Pourtant, c'est d'une manière un peu différente que j'ai choisi de... Première diapositive, s'il vous plaît. Que j'ai choisi de vous présenter le sujet en présentant deux choses qui sont à première vue, et qui sont en fait d'ailleurs, presque diamétralement opposées. Ce que je vous ai présenté là, c'est d'une part un cristal, c'est un diamant, et d'autre part, c'est un schéma, ça n'est pas une photo de microscopie électronique, c'est tout simplement un schéma structural d'une cellule animale typique. Alors, ces deux choses-là sont choisies parce qu'elles sont en quelque sorte le symbole de deux manières fondamentalement différentes d'aborder la matière. Dans le cristal, vous partez d'atomes, mais ça c'est vrai pour la cellule aussi, et vous arrivez à une taille qui est, disons, pour un beau diamant, de l'ordre du centimètre. La cellule est un peu plus petite, mais c'est malgré tout un objet presque macroscopique, des cellules d'un dixième de millimètre, c'est courant. Donc ce qui différencie ces deux objets, ce n'est pas le point de départ et le point d'arrivée, c'est ce qui se situe entre les deux. Et dans le cristal, ce qui se passe entre les deux, c'est remarquablement simple, c'est même affreusement banal, puisque vous passez de l'atome au cristal en posant des atomes les uns à côté des autres, sans le moindre défaut si possible, de manière à obtenir l'objet centimétrique que vous aimeriez, et moi aussi, avoir entre les mains. Dans la cellule, c'est totalement différent. On part du même point, on arrive à la même taille finale, mais entre les deux, vous avez une multitude d'échelles structurales propres, bien définies. Et à chaque échelle structurale, vous pouvez associer une fonction particulière. Et ce qui fait la richesse du comportement de la cellule, ce n'est pas la petitesse du point de départ, c'est cette multitude de structures et de fonctions emboîtées les unes dans les autres. Et si je vous dis ça, c'est parce que je suis assez convaincu, et on est plusieurs à être convaincus de cette chose, c'est que les nanotechnologies dont je vais vous parler maintenant sont caractérisées par ces deux choses-là. D'une part, la maîtrise de ce qui se passe aux petites échelles. Dans la cellule, on part d'objets moléculaires en nombre considérable, chacun bien défini. Mais aussi, c'est la structure de la manière de les organiser ou de les laisser s'auto-organiser pour obtenir la structure complexe qui fait les merveilles que nous connaissons. Alors, la deuxième image que je vous montre ne fait que renforcer cette idée que je voudrais vous faire passer. Ce que je vous montre là, c'est non plus, à nouveau, c'est pas une photo, c'est un dessin d'une des structures que l'on trouve dans l'image précédente. C'est une image d'une membrane. Vous savez que les objets vivants, la cellule en particulier, n'est en fait qu'un ensemble incroyable de structures membranées plissées, enchevêtrées les unes dans les autres, qui compartimentent le milieu. Et la plupart des processus biologiques se passent dans ces compartiments ou dans les membranes qui séparent les compartiments. Mais là aussi, on retrouve cette idée d'objets qui s'organisent ou qui s'auto-organisent. Dans le cas précis, il s'agit de phospholipides qui forment cette couche, double couche que vous distinguez là, et dans lesquelles nagent, entre guillemets, des structures qui, elles aussi, ont des fonctions propres, qui sont les protéines membranaires. Alors voilà le décor campé. Passons maintenant aux réalisations, soit aux découvertes, soit aux objets technologiques qui ont été réalisés. Alors pour développer une science et une technologie fondée sur les mêmes principes, il y a deux conditions qui découlent exactement de ce que je viens de dire. La première, c'est voir, manipuler et maîtriser ce qui se passe aux plus petites échelles, l'échelle atomique en l'occurrence, ou au moins l'échelle moléculaire. Et la deuxième, c'est la maîtrise de l'organisation. Alors commençons par la maîtrise des petites échelles, voir ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Alors ce que je vous montre là, c'est d'une part en gris, et puis parce que c'est un peu plus joli, mais il n'y a pas plus d'informations scientifiques dans l'image, c'est en couleur. La première image résolue à l'échelle atomique, obtenue par microscopie électronique à transmission dans un laboratoire japonais, d'un matériau moléculaire. Il s'agit d'une phtalocyanine. C'est un colorant couramment employé, dont la molécule de base est une molécule que vous distinguez peut-être dans le coin supérieur droit de l'image en grisé. Et ça a été le premier cas où, sur une structure moléculaire, on a vu les atomes. Sur les solides cristallins, on savait le faire, mais sur les molécules, c'était plus compliqué. Et c'est sur cet objet-là que ça a été réalisé. Mais la microscopie électronique est un outil qui permet de voir, mais qui ne permet pas d'aller plus loin. Et il a fallu attendre 1981 pour voir apparaître le premier outil qui permet non seulement de voir, mais aussi de manipuler. Et de manipuler, comme vous allez le voir, de manière assez extraordinaire. Il s'agit du microscope à effet tunnel, développé par Rohrer et Bunny dans les laboratoires d'IBM, et qui est schématisé sur l'image que vous voyez. En faisant le plus simple possible, il s'agit de ne rien d'autre que d'une pointe, la plus effilée possible, que l'on approche du matériau ou de la surface à étudier. Alors, ce qui est remarquable, c'est que pour développer cet engin-là, il ne fallait pas de capacité ou d'outils nouveaux extraordinaires. Tout était en place dans les années 80 quand ça a été développé. Ce qu'il fallait, c'était oser penser que c'était possible. En fait, ce qu'il fallait, c'était des cristaux piézoélectriques, c'est-à-dire des cristaux qui peuvent se dilater ou se contracter quand on leur applique un potentiel électrique, de manière à contrôler très finement l'approche de la pointe de la surface qu'on veut examiner. Et ça, c'était possible, et ils l'ont fait. Après, c'est une question de choix, j'allais dire. Ce que Rohrer et Binic ont choisi, c'était d'appliquer entre la pointe et la surface qu'on veut regarder un potentiel électrique et de mesurer le courant, sans que la pointe ne touche la surface. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Eh bien si, dans le monde quantique, dans le monde tout petit où se situent ces investigations, un courant électrique peut passer à travers une barrière infinie, en l'occurrence un espace isolant complètement non conducteur d'électricité. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, d'où le nom de microscope à effet tunnel. Depuis, dans la foulée, d'autres types de mesures ont été utilisées et ont donné lieu à d'autres types de microscopes qui permettent de voir et de manipuler les atomes, en particulier le microscope à force atomique, qui lui, toujours avec les mêmes techniques d'approche, ne mesure non pas un courant électrique, mais mesure une force. Alors, quand on applique cette technique-là, et qu'en mesurant un courant ou une force, on balaye la surface par des techniques informatiques, on peut reconstituer, par exemple, le profil de la surface qu'on regarde. Et ce que vous voyez là, c'est une des premières images d'une surface d'un cristal de silicium observée par microscopie à effet tunnel. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression presque de pouvoir caresser les atomes. Alors, le plus extraordinaire sur ce cliché, c'est pas tellement les atomes qu'on voit, mais c'est celui qui manque. Bien sûr, les couleurs rendent les choses plus esthétiques, ça n'apporte, comme je l'ai déjà dit, pas grand-chose de plus sur le plan scientifique, mais ça permet de mieux percevoir le progrès réalisé. On savait depuis longtemps que les surfaces atomiques avaient des défauts, et que parmi ces défauts, il y avait ce qu'on appelle des lacunes. Une lacune, c'est un atome qui manque, mais personne n'avait jamais vu ça, et ce cliché-là est la preuve irréfutable qu'à certains endroits, il y a des défauts, il y a un atome qui manque. Ça, c'est le monde des cristaux. Il y a aussi le monde des structures moléculaires. Voici une image beaucoup plus récente qui est obtenue cette fois-ci en balayant la pointe et en mesurant la force, en microscopie à force atomique. Et ce que vous voyez, c'est une molécule d'ADN déposée sur une surface. À certains endroits, vous voyez la molécule d'ADN englobée dans une gaine de protéines. Et puis à d'autres endroits, si vous regardez vers le bas de l'image, vous voyez la molécule d'ADN de manière beaucoup plus mince, elle s'est débarrassée de elle est sortie de sa gangue de protéines, et vous la voyez à la taille réelle. Donc voilà des outils qui permettent de voir des atomes sur des cristaux, des surfaces de cristaux, qui permettent de voir des molécules déposées sur des surfaces, de manière extrêmement fine. La deuxième étape, c'est utiliser les mêmes outils pour manipuler, commencer à construire quelque chose. Alors la première chose qui a été construite, vous allez me dire, c'est pas très sérieux, ça a été le logo d'IBM. Et ça a été obtenu de la manière suivante. Les chercheurs d'IBM ont appliqué leur technique de microscopie à effet tunnel en appliquant donc une différence de potentiel entre la pointe et une surface de silicium dans une atmosphère où régnait une petite pression de xénon, un gaz rare. Un gaz dont les atomes sont extrêmement simples, des sphères uniques. Et en appliquant une certaine différence de potentiel, les atomes de xénon sont venus se coller sur la pointe du microscope. Et en relâchant le potentiel, ils ont réussi à déposer l'atome à l'endroit où ils le voulaient. Puis en prenant un deuxième atome et en le posant à côté du second, ils ont réussi à faire un logo. Bien sûr, tout ça suppose que les atomes, une fois mis en place, ne bougent pas. Donc ça ne se passe qu'à très basse température quand il n'y a pas d'agitation thermique. Alors, ce n'est pas le logo d'IBM que je vous montre là, ce sont des choses plus récentes. Le cliché de gauche est en fait un petit bonhomme, obtenu également dans les laboratoires d'IBM. En passant, pour éviter de le dire à chaque fois, vous verrez sur chacune des diapositives que je présente, contenant des résultats d'autres auteurs, la référence dont elle est issue, et en général, chaque fois que j'ai pu vous la trouver, le nom du scientifique qui a fait la mesure. Donc là, vous voyez un petit bonhomme qui est constitué de 28 molécules d'oxyde de carbone qui sont restées bien sagement en place parce que le processus se passe à quelques degrés Kelvin, donc à très basse température. Alors encore plus esthétique peut-être, à droite vous avez en japonais, en kanji, le mot « atome » qui a été réalisé, alors j'ai oublié exactement avec quelle molécule ça a été construit, mais vous voyez qu'on peut manipuler avec ces outils-là, de manière très très fine, les atomes et les molécules et les positionner. Là, ce sont des exemples de molécules qui sont bien sages et qui restent en place une fois qu'on les a mises à l'endroit où on voulait les mettre. Mais on peut aussi faire de la chimie. Donc, faire de la chimie, c'est positionner et faire réagir des atomes entre eux. Et ce que vous voyez là, c'est la mise en place d'un certain nombre d'atomes de césium, d'un certain nombre d'atomes d'iode qui ont réagi et qui ont fait cette structure qui est cette fois-ci de l'iodure de césium. Donc il y a eu réaction chimique de manière contrôlée à l'échelle atomique sur une surface. Et c'est réellement une prouesse d'avoir fait ça. Alors ces outils-là, comme vous l'avez vu, j'ai dit tout à l'heure en parlant du microscope à effet tunnel, qu'à cette échelle-là, il y a des processus inhabituels qui se passent, comme par exemple un courant tunnel, un courant qui passe sans problème à travers un isolant, pour autant que la largeur de l'isolant ne soit pas trop grande, ce qui implique que la pointe doive s'approcher de manière très proche de la surface. Il y a d'autres phénomènes qu'on permet de voir, qu'on peut voir. Et un de ces phénomènes, c'est celui qui est illustré ici, et il est aussi lié à la nature quantique de la matière. Ce que vous voyez là, c'est un enclos quantique réalisé également dans les laboratoires d'IBM, à gauche, qui est constitué d'un certain nombre d'atomes de fer déposés sur une surface de cuivre. Les atomes ont été déposés par la technique que je viens de vous décrire précédemment. Et ce qui est à remarquer sur cette image-ci, ce n'est pas tellement le dispositif qui a été mis en place, ça vous est familier maintenant, mais ce sont les ondes que l'on voit essentiellement à l'intérieur de l'enclos et un peu à l'extérieur de l'enclos. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est la visualisation du caractère ondulatoire de la matière qui est un des fondements de la mécanique quantique. On sait donc depuis De Broglie qu'à une particule est associée une onde et que cette onde décrit globalement la probabilité de la particule à se trouver à un endroit donné. Eh bien, ce que vous voyez là, à l'intérieur de l'enclos fait à partir des atomes de fer, ce sont les ondes de densité, de probabilité de présence électronique du gaz d'électrons de la surface sous-jacente. L'exemple de droite est un exemple plus récent où vous voyez comment ces probabilités de présence du gaz d'électrons varient à mesure qu'on modifie la différence de potentiel entre la pointe et la surface sur laquelle est déposée la structure. Donc c'est en quelque sorte magique, c'est la visualisation directe du caractère ondulatoire de la matière. Alors je suis là encore dans une phase de mon exposé qui est la phase d'émerveillement et de description de ce qu'on peut voir et ce qu'on peut faire aux toutes petites échelles. Je vais maintenant tout doucement entrer dans la phase de construction. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu, on dépose, on fait un enclos, on fait réagir des molécules. Mais on peut aller plus loin dans la séquence qui va nous mener depuis l'échelle atomique jusqu'à, non pas l'échelle de la cellule, c'est beaucoup trop compliqué, mais jusqu'à des choses un peu plus compliquées. Alors l'étape suivante, je vais décrire quelque chose de très simple, ça va consister à commencer à essayer d'organiser, non plus des atomes ou des petites molécules, mais des petits agrégats, donc des petits paquets d'atomes, des petits paquets de 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, éventuellement 10 000 atomes. Alors un peu de la même manière que pour casser le noyau de l'atome, on a besoin de machines dont le périmètre fait plusieurs kilomètres, pensez au CERN à Genève. Et bien parfois, pour fabriquer de petits objets, on a besoin de machines relativement lourdes qui travaillent dans l'ultra-vide. Alors voilà une image qui est issue du laboratoire du département de recherche physique de l'Université de Lyon, qui vous montre un cliché d'une machine typique qui permet de faire ce qu'on appelle des agrégats atomiques. Alors de quoi s'agit-il ? Mais il s'agit d'une machine dans laquelle on chauffe un matériau, on éjecte des atomes et on collimate ce faisceau d'atomes et de telle sorte qu'on produit un jet d'atomes qui, au cours de leur trajectoire, vont éventuellement pouvoir se coller les uns aux autres, de sorte que dans le jet, on trouve au bout d'une certaine distance un mélange d'atomes isolés, de doublets d'atomes, de triplets d'atomes. Vous avez en fait, au bout d'une certaine distance, toute une distribution dont vous voyez là un profil. C'est ce qu'on appelle un spectre de masse. Donc vous voyez en ordonnée, en échelle verticale, la fréquence d'une taille donnée et en abscisse toute l'échelle des tailles jusqu'à des agrégats de 500 atomes. Alors quand on veut faire des choses de manière contrôlée, l'étape suivante, c'est de collimater le faisceau et de choisir dans cette population très large une population bien définie pour isoler un type d'agrégat. Et ça, c'est réalisable aussi. Et ça vous permet, par exemple, de sélectionner, dans une multitude d'agrégats possibles, des agrégats bien précis, donc des objets petits de l'échelle nanométrique, mais qui, dont la constitution est régulée à l'atome près. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est un agrégat de silicium dont la surface possède des atomes d'hydrogène. Leur nombre est bien précis, on peut les sélectionner. Et à droite, c'est un agrégat mixte composé d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Alors, avec ces agrégats-là, comme avec les atomes, on peut commencer à... j'allais employer le mot « jouer », parce qu'il s'agit un peu de ça. Il ne faut pas oublier que dans toute cette recherche, même s'il y a des applications très importantes à la clé, il reste, comme dans toute recherche scientifique, un caractère très ludique. Donc la première étape, c'est voir ce que ces petits objets peuvent, par exemple, faire quand on les dépose sur une surface, de la même manière qu'on regardait ce qui se passait avec des atomes tout à l'heure. Et je vous montre là deux images du type de structure qu'on peut réaliser. Ce sont des structures à caractère fractal, donc ce sont des agrégats un peu dendritiques qui, si on les laisse croire, deviennent très branchés et très poreux. Ces agrégats-là ont peu d'utilisation. En revanche, ce qu'on peut faire et qui a plus de potentiel d'utilisation, ce sont des structures organisées dont voilà deux exemples. Dans l'exemple de gauche, en couleur orangée, vous avez un dépôt qui s'est auto-organisé, et là on touche le deuxième important du message que je voudrais vous faire passer, c'est la capacité de la matière à spontanément prendre des structures qu'on aurait du mal à faire, à condition qu'on les mette dans les bonnes conditions. Et si les conditions favorables pour la réalisation de cette structure très ordonnée, elles dépendent de deux choses. La première, c'est fabriquer et sélectionner des objets petits et de taille strictement identique. Ça, on a vu comment le faire. La deuxième condition, c'était de mettre à la surface de ces petits agrégats des molécules qui font en quelque sorte que ces objets-là, comme des enfants en rang dans une école, puissent tendre les bras de manière à être tous à la même distance les uns des autres. En l'occurrence ici, le truc qui a permis de faire ça, c'est la fixation sur la surface d'une petite molécule organique soufrée, des alcanthiols, qui donne l'espacement voulu. Et quand on combine des éléments-là, spontanément, la matière s'organise pour former ce réseau remarquablement organisé sur lequel on va pouvoir faire de l'électronique et de l'optique, comme je vais vous l'illustrer par la suite. Encore plus remarquable est l'image en grisé que vous voyez, où le même procédé est appliqué avec deux tailles bien précises. Et ce que vous voyez, c'est qu'avec ces deux tailles précises, bien précises, moyennant les espaceurs adéquats, la structure s'est organisée sans le moindre défaut. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un défaut dans le système. C'est un véritable cristal, mais un cristal que la nature n'aurait jamais fait, qui dépend vraiment de notre maîtrise à contrôler les petites échelles. Alors, quelles sont les propriétés que ces petits agrégats possèdent et qui les rend intéressants? J'illustre mon propos par un agrégat dont l'image est particulièrement esthétique. C'est un agrégat d'atomes de germanium déposé sur une surface qui a spontanément formé cette sorte de pyramide. Donc, quelles sont les propriétés que ces petits agrégats d'atomes possèdent et qui les rendent intéressantes? Eh bien, une des propriétés de fond est liée à leur structure électronique. Et pour dire les choses simplement, quand un ensemble d'atomes, un petit cristallite comme ça, devient suffisamment petit, il se passe une chose très simple et qui n'existe pas dans les gros cristaux, c'est qu'un atome ou un électron qui se trouve, surtout un électron, qui se trouve à l'intérieur de ce petit agrégat, grâce à sa fonction d'onde, sans que la paroi du cristallite, sans que la paroi de l'agrégat n'est pas très loin. Et cette simple chose-là modifie complètement la structure électronique, les niveaux d'énergie que les électrons peuvent prendre dans l'agrégat. Et dans la mesure où la couleur d'un matériau dépend de la position des niveaux électroniques dans ce matériau, ça conduit à une conclusion très simple, c'est que, en principe, la couleur d'un matériau préparé sous forme de petit agrégat devrait être différente de la couleur d'un matériau préparé sous forme massique. Et qui plus est, dans la mesure où on peut contrôler la taille des petits agrégats, on devrait pouvoir contrôler la couleur des agrégats. Alors, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens qui s'intéressent à la fabrication de pigments mettent cette idée à profit pour, par exemple, comme c'est illustré là, avec du sulfure de cadmium, qui est un pigment orangé, pour que les gens qui sont intéressés par la synthèse de pigments mettent cette idée à profit pour fabriquer, en contrôlant la taille des agrégats, des pigments de couleurs précises. Alors j'ai pris la couleur comme exemple, mais toutes les propriétés électriques sont modifiées de la même manière. Et pour donner un exemple concret d'application qui a déjà donné lieu à une application, je vous montre là une application de ces petits agrégats dans l'étude des structures biologiques. Les biologistes ont, comme vous l'avez vu sur la première diapositive de mon exposé, font face à des structures très complexes. Et pour essayer d'y voir clair, ils emploient la plupart du temps des techniques de marquage qui consistent par exemple à choisir une molécule dont on sait qu'elle va réagir avec un type d'objet particulier dans la cellule ou dans l'organisme. Et qui plus est, on choisit une molécule qui fluoresce avec une couleur bien particulière, par exemple une molécule verte. Donc, après avoir fait ce processus, on sait que lorsqu'on regardera l'objet biologique, on verra, pour autant qu'on illumine par de la lumière ultraviolette, on verra de la fluorescence à l'endroit exact où se situe la structure qu'on a voulu révéler. La plupart du temps, on utilise des molécules organiques pour faire ça, mais les petits agrégats dont je viens de vous parler ont des tas d'avantages. La première, c'est d'être biotolérable, biocompatible, et il y en a d'autres, c'est la grande flexibilité avec laquelle on peut régler la couleur. Et ce que vous voyez là, c'est une image d'une structure biologique que j'aurais du mal à vous décrire en détail parce que ce n'est pas du tout ma partie, mais qui met à profit cette spécificité des petits agrégats. Alors, je fais une parenthèse à propos de la diapositive suivante, parce qu'il est une réflexion en nanotechnologie que les gens de la partie, les gens du métier font souvent, c'est de se dire, oui, vous me parlez de petits objets, mais il y a des tas de domaines dans la science où on joue avec de petits objets depuis des décennies. Et on n'appelait pas ça nanomatériaux. Nanomatériaux, c'est une invention des gens qui cherchent à trouver des mots à la mode et à trouver des crédits auprès du ministère de la Recherche. Et c'est vrai qu'il y a des domaines en nanotechnologie qui sont des domaines relativement anciens. Ça n'empêche qu'ils sont particulièrement jolis et qu'il y a de la belle science à y faire. Et l'exemple que je vous montre là, c'est celui de la photographie argentique. On a tous probablement des appareils numériques à l'heure actuelle, mais la photographie argentique classique reste malgré tout un procédé dont la résolution est pour l'instant insurpassable. Et le mécanisme de la photographie argentique est un mécanisme de nanophysique ou de nanochimie. Ce que vous voyez dans l'image de gauche, ce sont les cristaux de bromure d'argent qui sont le cœur du procédé. Quand un microcristal de bromure d'argent, comme cela, reçoit un photon de lumière, il se passe un processus de transfert d'électrons qui fait qu'un atome d'argent, qui était un cation, un ion positif d'argent, recevant un électron négatif, devient un atome neutre d'argent, et qui reste la marque indélébile du fait qu'il a été illuminé à cet endroit-là. Après l'exposition de la plaque photographique, on a donc une image latente qui est une collection d'atomes individuels ou de tout petits agrégats d'argent dispersés sur la plaque photographique. Mais ces agrégats sont trop petits et ils sont trop peu nombreux pour que ça puisse se voir à l'œil et qu'on puisse voir une véritable image. Et c'est là toute l'astuce d'avoir inventé le processus de révélation qui va faire en sorte que les petits cristaux d'argent vont se mettre à grossir et qu'on va voir une véritable image émerger de la plaque photographique. Le problème, c'est que si vous versez ou si vous mettez votre plaque dans un bain de révélation, il y a des atomes d'argent à peu près partout, et donc avec le mécanisme chimique qui est assez brutal que vous imposez, qui est en termes chimiques un mécanisme de réduction qui va faire que les petits grains, les petits germes que vous avez qui étaient présents vont se mettre à grossir. Ce procédé est tellement brutal que normalement, vous vous attendez à ce que toutes les images photographiques deviennent complètement noires. Et en fait, ce n'est pas vrai, comme vous savez. Ce qui devient noir, c'est les endroits qui ont été illuminés avec une certaine intensité. Alors la raison pour laquelle il y a ce seuil de sensibilité qui permet qu'on voit une image réelle avec toutes ses nuances et non pas une plaque complètement noire, c'est la propriété suivante, c'est le fait que le potentiel d'oxydoréduction, je vais de suite dire quelques mots sur ce que c'est par la suite, le potentiel d'oxydoréduction de ces petits agrégats d'argent qui ont été créés qui ont été produits par la lumière naturelle qui a impressionné la plaque, dépend de la taille. de telle sorte que ce ne sont que les agrégats qui sont plus gros qu'une certaine taille critique, donc ceux qui ont reçu le plus, les endroits qui ont reçu le plus de lumière, qui vont continuer à grossir et devenir visibles à l'œil nu. Les plus petits ne vont pas modifier et vont rester, ne vont pas se modifier et vont rester invisibles. Et c'est ça qui fait que le procédé marche. Donc c'est en quelque sorte un procédé nanotechnologique qui ne porte pas son nom, mais qui en est bien un. J'allais dire le potentiel d'oxydoréduction, pour les gens, j'imagine qu'il y en a qui ne sont pas spécialisés dans la salle, c'est tout simplement le potentiel qu'il vous faut appliquer pour pouvoir injecter un électron dans la matière et faire en sorte qu'elle l'accepte. Alors je ne peux pas, parce qu'il y aura un exposé la semaine prochaine, non, dans 15 jours, si je ne m'abuse, qui sera entièrement consacré à la chose, je ne peux pas ne pas dire deux mots d'un type d'agrégat qui est assez extraordinaire et qui donne lieu à des développements dans des tas de domaines à l'heure actuelle. Il s'agit des nanotubes de carbone. Alors c'est un type de petits objets très particuliers que vous pouvez imaginer de la manière suivante. Imaginez une feuille de graphite. Alors une feuille de graphite, un feuillet de graphène en termes techniques, c'est en quelque sorte un plan atomique individualisé. C'est une feuille dont l'épaisseur est d'un atome, composée uniquement d'atomes de carbone, disposés en arrangement hexagonal. Et vous faites un nanotube en prenant une feuille et en la roulant et en soudant les deux extrémités l'une à l'autre. Alors, suivant la manière dont vous roulez votre feuille, vous allez pouvoir faire plusieurs types de nanotubes. Ce sont les trois types que vous voyez à gauche. Si vous roulez la feuille bien dans l'axe, vous pouvez fabriquer une structure dans laquelle les hexagones, comme dans la feuille, restent en quinconce. Si vous roulez la feuille en partant avec un angle de 30 degrés par rapport à l'axe, vous allez faire une structure, un nanotube, dans lequel les hexagones sont cette fois-ci en face l'un de l'autre, de manière linéaire. Et si vous êtes selon un angle quelconque, vous allez faire une structure hélicoïdale qui est illustrée sur la troisième image. Alors, ce qui est remarquable, c'est que selon la manière dont vous faites cet enroulement, les propriétés électroniques du nanotube vont changer. On peut faire des nanotubes qui seront de bons conducteurs d'électricité, des conducteurs de type métallique. On peut faire des nanotubes qui sont des nanotubes isolants. Et on peut faire des nanotubes intermédiaires, des nanotubes semi-conducteurs. Simplement en changeant la manière d'enrouler le feuillet, et aussi, c'est un autre, mais c'est plus délicat d'entrer dans les détails, la manière de disposer éventuellement des défauts dans la structure. Par exemple, la manière de disposer de temps en temps un pentagone plutôt qu'un hexagone. Alors ces objets-là ont une autre propriété, c'est qu'à l'heure actuelle, ce sont les objets mécaniquement les plus costauds, les plus solides que l'on connaisse. Pour les techniciens de la chose, leur module Young est de 1,2 terapascal, ce qui est absolument gigantesque, et ce qui a fait imaginer à certains qu'avec des fibres de nanotubes tissées et très très longues, on pourrait éventuellement faire quelque chose qui dépasse l'imagination, faire un ascenseur spatial, donc faire un ascenseur qui parte d'une station en orbite et qui aille jusqu'à la Terre et vice-versa. Avec tous les matériaux connus, hormis les nanotubes, cette chose-là serait impossible parce que les câbles des ascenseurs se romperaient sous leur propre poids. Les nanotubes permettraient en principe de faire cette chose absolument fantastique. Alors les nanotubes existent sous différentes formes. La forme que j'ai décrite, c'est ce qu'on appelle une nanotube simple paroi. C'est un seul feuillet enroulé. N'empêche que dans la plupart des situations, ces nanotubes s'associent eux-mêmes entre eux et forment les bottes ou des faisceaux de nanotubes, comme vous voyez au-dessus à droite. Alors ces faisceaux de nanotubes sont déjà utilisés pour des tas de choses, par exemple pour renforcer des polymères, des plastiques, des métaux, des céramiques, par exemple pour faire des pointes de microscopie à effet tunnel, et d'autres choses encore sur lesquelles je reviendrai. Donc voilà une deuxième étape franchie dans notre passage vers de l'étape nanométrique vers la construction d'objets complexes. Et je vais maintenant aborder ce que vous attendez tous, je pense, quelques exemples concrets d'application, de réalisation d'objets. Alors si j'avais à vous demander quels sont les domaines typiques d'application des nanotechnologies, vous n'auriez probablement pas dit la photographie, mais vous auriez probablement dit la microélectronique. Et Claude Vesbuche, qui est ici dans la salle, va vous en parler de manière détaillée. Alors cette diapo est juste pour illustrer mon propos à nouveau.
Bon, vous êtes tous conscients qu'on vit depuis pas mal de temps cette course à la miniaturisation et à un nombre de toujours croissant de transistors sur les puces électroniques pour avoir des puissances de calcul de plus en plus fortes. Alors, l'idée de pouvoir disposer, par exemple dans le cas des nanotubes, de tout petits objets nanométriques qui sont tantôt conducteurs, tantôt isolants, tantôt semi-conducteurs, donne évidemment des idées très rapidement aux gens de ce monde-là. Il en est d'autres, et c'est par une autre que je vais commencer, parce que celle-là, elle est vraiment entrée dans la pratique, et ça s'est fait de manière remarquable, presque sans que, en tout cas, que le grand public ne s'en rende compte, en quelques années. Et c'est une nanotechnologie qui concerne les têtes de lecture de tous nos dispositifs de stockage, CD, bandes magnétiques et autres. Et c'est un dispositif qui est fondé sur un processus, un phénomène physique qui relève typiquement d'échelle nanométrique et qui est ce qu'on appelle la magnétorésistance géante. Alors ça repose sur le type de structure que vous voyez en grisé à droite, c'est-à-dire une alternance contrôlée à l'échelle de l'atome près, de couches de matériaux magnétiques et de matériaux non magnétiques. Alors quand on applique un champ magnétique à une structure comme celle-là, eh bien sa résistance électrique, donc la facilité avec laquelle le courant passe, est modifiée. Mais pour que ça se passe et que ça ait un effet notable, il faut que les couches que vous voyez là soient extrêmement minces et une épaisseur parfaitement contrôlée. Alors ce phénomène-là, comme je l'ai dit, il a une application toute trouvée dans la lecture des enregistrements magnétiques. Imaginez que vous passiez une tête de lecture possédant à sa surface cette multicouche sur une bande possédant des plots magnétiques, là où vous avez imprimé quelque chose, où vous avez imprimé une information, eh bien la résistance de la tête, la résistance électrique, va s'en trouver modifiée. Donc vous avez immédiatement un signal utilisable pour décoder l'information. Et en quelques années, toutes vos têtes de lecture, toutes nos têtes de lecture, de lecture et d'écriture maintenant, repose sur ce principe. Et c'est un développement qui est absolument universel. C'est le contrôle de ces processus électroniques ou magnétiques à l'échelle nanométrique repose aussi sur la création de jonctions. Il ne suffit pas d'avoir un dispositif. Si vous voulez, par exemple, faire un transistor à l'échelle moléculaire, il vous faut des éléments actifs et puis il vous faut des fils. Donc dans le domaine des nanotechnologies, il y a toute une population de chercheurs qui cherchent à contrôler, à fabriquer de manière bien précise des fils nanométriques. Et ce que je vous montre là, c'est une image déjà ancienne, mais qui vous montre la précision avec laquelle on peut contrôler le diamètre d'un fil, à l'atome près. Ce que cette image vous montre, c'est un fil d'or. Vous savez que nos circuits électroniques sont bourrés de métaux précieux, ça vaut vraiment très cher et d'ailleurs c'est récupéré. Donc ce que vous voyez là, c'est un fil d'or réalisé entre deux pointes dans un microscope. Et ce que vous voyez, c'est qu'à mesure que les deux pointes s'éloignent l'une de l'autre, le diamètre du fil s'amenuise de manière saccadée, ça se fait couche d'atome par couche d'atome, et qu'en parallèle, la résistance électrique se modifie de manière quantifiée à chaque fois qu'une couche d'atome disparaît. Autre exemple de structure de type électronique nanométrique, l'image en couleur, c'est ce qu'on peut appeler un transistor à effet de champ réalisé avec un seul nanotube déposé entre une source et un drain. Le nanotube est semi-conducteur. Et sa conductivité électrique, sa réponse, va dépendre du potentiel que vous appliquez à la couche noire, au substrat que voilà. Donc on a réalisé là, les chercheurs qui ont fait ça, ont réalisé à l'échelle du nanotube, 2 nanomètres, ce qu'on peut réaliser actuellement sur les puces électroniques à une échelle de plusieurs ordres de grandeur supérieure. Le cliché en noir et blanc vous montre quelque chose d'encore peut-être plus extraordinaire. C'est un amplificateur qui lui est fondé non plus sur un nanotube, mais sur une autre forme de structure de ce type-là, qui sont les fullerènes. Alors, ça n'est plus un tube, c'est un feuillet de graphite avec un mélange d'hexagone et de pentagone, je simplifie à outrance, là, de manière à former une structure en ballon de football. Et le point important, là, c'est que les propriétés électriques de ce ballon moléculaire dépendent de l'effort mécanique que vous appliquez dessus. Donc avec un microscope à force atomique, en appuyant plus ou moins fort sur la molécule de fullerène, qui contient 60 atomes de carbone en l'occurrence, vous allez modifier la réponse électronique et vous allez pouvoir amplifier un signal que vous injectez dans le système. Alors je pourrais multiplier les exemples. Voilà par exemple une jonction réalisée dans le laboratoire mixte du CEA et de Motorola sur le plateau de Saclay. Vous voyez une jonction de deux nanotubes faite de manière parfaitement contrôlée qui a été réalisée en préparant la surface et en la rendant particulièrement compatible avec un nanotube. Donc on a préparé une surface avec deux bandes dont les propriétés adhésives sont différentes. Et puis on a préparé les deux nanotubes avec des propriétés telles que l'un aille se mettre spécifiquement sur la première bande et l'autre spécifiquement sur la seconde bande pour faire la jonction. Et ça vous donne cette chose-là. Alors ces nanotechnologies ne s'appliquent pas qu'à l'électronique. Voilà, regardez plutôt l'exemple de droite, il est plus spectaculaire, même si l'image ne l'est pas forcément. Ce que vous voyez là, c'est une structure en plot. L'image grise, c'est l'image grise qui est la plus importante. C'est en fait un réseau de petits plots qui ont été réalisés par des techniques du type de celles que j'ai décrites précédemment et qui constituent en quelque sorte un labyrinthe. Et ce labyrinthe, vous allez vous en servir pour séparer des molécules d'ADN. Donc vous allez mettre à l'entrée du labyrinthe un mélange de molécules d'ADN, des grands, des petits, provenant d'individus différents, avec des propriétés différentes. Et dans ce labyrinthe, ils vont migrer avec des vitesses différentes. Si le labyrinthe est suffisamment long, alors que vous allez injecter un mélange confus à l'entrée, vous allez recueillir à la sortie, c'est de la chromatographie en termes techniques, vous allez recueillir à la sortie les ADN les uns après les autres. Alors ces choses-là se font actuellement, non pas sur des plots de ce type-là, mais sur des gels. Des gels, ce sont des labyrinthes moléculaires de molécules, de macromolécules, de polymères. Avec ces plots-là, on pourrait faire les choses, et on peut déjà les faire, de manière infiniment plus contrôlée et de manière plus sélective. Donc vous voyez que les techniques, disons, du type nanoélectronique, ont un impact fort également dans le domaine de la biologie. Alors, comme je vois que le temps passe, si je ne m'abuse, il me reste 10 minutes. 15, d'accord. Je vais plutôt vous présenter ceci, qui est l'étape suivante, parce que les structures, les nanostructures, comme je viens de vous en montrer, on pourrait en montrer des dizaines. Je vais maintenant revenir un petit peu au monde moléculaire. Là, j'étais dans le monde des agrégats et des structures bien contrôlées de type micro-nanoélectronique. Je vais revenir au monde moléculaire pour montrer comment on peut s'en servir comme modèle, comment on peut exploiter les molécules complexes de la biologie pour faire des objets artificiels. Alors, ce que vous voyez là, c'est une des enzymes probablement les plus remarquables du monde vivant. C'est l'ATP synthase. C'est une enzyme qui synthétise, qui donne énergie à la cellule, qui permet de hydrolyser l'adénosine triphosphate et de donner de l'énergie. Ce n'est pas cette fonction-là qui est intéressante dans ce que je vais vous montrer. La fonction intéressante, c'est que cette molécule, cette enzyme qui est composée d'un petit nombre de protéines, chacun des lobes que vous voyez là, c'est en fait une protéine, cette molécule est en fait un moteur. Elle a une partie centrale, un moteur. Elle a une partie centrale qui est indépendante de la périphérie. Donc vous avez en quelque sorte une partie centrale qui est un roteur potentiel et puis une partie périphérique qui est un stator comme dans tout moteur électrique. Et cette molécule-là, pour faire sa réaction concernant l'ATP, fonctionne en fait grâce à un flux de protons, d'ions hydrogène, qui traverse la membrane dans laquelle l'enzyme est positionnée. Et ce flux de protons crée par un mécanisme qui reste encore à élucider un mouvement circulaire. Donc la partie centrale de la molécule, pendant que la molécule travaille et fournit de l'énergie, cette partie centrale tourne. Alors, dans les premières études de cette molécule-là, ça n'a pas été du tout évident. Et il a fallu attendre jusqu'à relativement récemment pour révéler ce mouvement-là. Et le premier qui l'a révélé, c'était un chercheur japonais, Koji, dont vous voyez le nom, Noji, dont vous voyez le nom sur la diapositive, et qui a eu l'idée, pour révéler le mouvement, de fixer sur l'axe de la molécule un bras de levier qui permet de suffisamment grand pour qu'on puisse voir le mouvement. Et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui est illustré dans le cliché supérieur droit. Alors ça, c'est un Japonais qui a fait ça, et ça ne vous étonnera sans doute pas c'est un Américain par la suite qui s'est dit, mais bon Dieu, là, on a un moteur moléculaire, on va pouvoir faire des choses avec ça. Et lui, plutôt que de mettre une molécule qui servait simplement à visualiser les choses, il a monté la molécule sur un support métallique en nickel, il l'a fixé par des méthodes de génie génétique, et il a fixé sur l'axe du moteur moléculaire une petite tige métallique et qu'il a fait tourner, et c'est ce qui est symbolisé, c'est pas un cliché. Il y a un site web sur lequel on peut voir la molécule filmée qui tourne, et comme je ne maîtrise pas suffisamment PowerPoint, j'ai pas réussi à vous le montrer aujourd'hui, mais il faut aller voir le site web. Donc il s'est servi de cette molécule-là pour faire un véritable moteur, et on peut imaginer toutes sortes d'applications dans le domaine biologique, des nanorobots qui pourraient faire des choses dans notre organisme. Il y a un exposé, c'est Franck Julicher, qui vous en parlera dans quelques semaines, consacré au moteur moléculaire. Alors je ne résiste pas non plus quand même au plaisir de vous en présenter un autre, parce que là, on a un mélange de technologies et de principes fondamentalement nouveaux. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est d'abord en grisé, ce qu'on appelle le cytosquelette. Une cellule, même si ça n'est pas un squelette au sens où on l'entend habituellement, possède un squelette. Ce sont des filaments de protéines qui s'allongent, qui se raccourcissent et qui donnent à la cellule sa forme, qui lui permettent de se déplacer et qui la maintiennent dans son volume. Alors ces filaments, dont certains s'appellent microtubules, sont en quelque sorte de véritables rails sur lesquels se déplacent d'autres moteurs moléculaires de la cellule. Et parmi ces moteurs moléculaires, il y en a un qui est illustré au-dessus à droite, qui est la kinésine. Celui qui est illustré en bas à gauche, c'est un moteur de la contraction musculaire, c'est la myosine. Alors comment marchent ces moteurs moléculaires ? Eh bien ces moteurs moléculaires marchent sur quelque chose que nous ne pouvons pas exploiter à notre échelle. Ils marchent grâce au fait qu'à cette échelle-là, l'échelle nanométrique, à la température à laquelle nous sommes, les atomes et les molécules sont en mouvement perpétuel. Donc une molécule donnée reçoit en permanence par seconde un nombre incalculable de chocs venant des autres molécules qui la bousculent tantôt à gauche, tantôt à droite. Et les moteurs moléculaires semblent bien que ça fasse toujours l'objet de recherches actives, semblent bien marcher sur ce principe-là. Et vous allez me dire, si une molécule donnée reçoit des chocs venant de partout, elle ira aussi de manière complètement erratique, il n'y a pas de mouvement dirigé. Eh bien, les moteurs moléculaires semblent mettre bien à profit ce principe-là et le transformer en mouvement dirigé grâce à ce qui est remarquablement décrit d'ailleurs dans un article du numéro spécial de Pour la Science qui vient de sortir, qui est le principe du cliquet moléculaire. Quand on a une roue à cliquet, vous savez très bien qu'une roue à cliquet, ça permet de faire un mouvement dans un certain sens. Le profil du cliquet est tel qu'on peut faire avancer la roue doucement, sans trop d'efforts dans un sens, mais qu'au-delà d'un certain déplacement, on tombe brutalement au-delà de la dent, et que ce profil-là de la dent, il est beaucoup plus raide, et qu'il empêche, parce que c'est beaucoup plus dur, le mouvement d'aller en sens inverse. Eh bien, les moteurs moléculaires semblent mettre à profit ce type de principe pour convertir le mouvement aléatoire en un mouvement dirigé. Alors, j'ai parlé de pour la science, pour respecter l'égalité, il faut dire que la recherche a fait, elle aussi, un dossier spécial sur les nanotechnologies. Et Science et Vie fera pareil, j'imagine. Bon. Alors ça n'existe pas encore, mais ça existera sûrement un jour. C'est un moteur moléculaire possible réalisé avec des nanotubes de carbone. Des nanotubes de carbone sur lesquels on aurait fixé des molécules de benzène de façon à faire un engrenage. Alors le principe du cliquet y est, sauf qu'à ce stade-ci, c'est un engrenage parfait. Et le profil de la molécule de benzène n'est pas symétrique, il est symétrique. Donc, si on met cet objet-là, si on le bombarde de toutes sortes, il tournera dans n'importe quel sens. Ce qui reste à faire, c'est rendre les molécules, les ailes, sur l'axe central asymétrique, de façon à rendre la rotation dirigée. Quelques exemples maintenant dans le domaine des nanomatériaux. Et puisque je suis arrivé à l'étape où j'ai des choix à faire. Je vais vous présenter cet exemple-ci. À partir du moment où on peut fabriquer des petits grains, on peut éventuellement les compacter et on peut faire des objets solides. Et ça peut par exemple servir à faire des choses qui sont déjà utiles à l'heure actuelle, par exemple des outils de coupe qui deviennent nettement plus durs que les outils de coupe ou les forêts que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors le principe sur lequel repose cette idée-là, il est très simple. Quand vous pliez un fil de cuivre ou un fil de fer, vous faites ce qu'on appelle une déformation plastique. Alors comment se fait à l'échelle microscopique la déformation ? Eh bien ça se fait par un mécanisme qui fait appel à un défaut qu'on appelle une dislocation, et qui est en quelque sorte le mécanisme par lequel vous pouvez déplacer une nappe sur une table ou un tapis sur le sol sans faire d'effort. Ça consiste à faire un pli dans la nappe ou un pli dans le tapis, et puis à pousser avec le pied ou avec le plat de la main le pli jusqu'à l'extrémité de la nappe ou du tapis. Et quand le pli arrive au bout, vous avez en fait déplacé votre nappe ou votre tapis d'une longueur qui est la longueur du pli. Et bien quand vous déformez un fil de fer, c'est de cette manière-là que se passe la déformation à l'échelle microscopique. Quand vous avez un matériau formé d'une multitude de petits grains, ce mécanisme-là rencontre des obstacles, parce qu'à chaque passage d'un grain à l'autre, il y a un changement d'orientation qui est illustré sur le cliché de microscopie électronique, qui fait que le pli ne pourra pas passer d'un grain à l'autre. Et le résultat, c'est que votre matériau devient incroyablement plus dur qu'un matériau qui serait formé de gros grains. Il y a une autre possibilité, qui est en quelque sorte le contre-pied de la précédente, c'est de dire qu'à partir du moment où les grains sont suffisamment petits, peut-être qu'ils vont pouvoir rouler les uns sur les autres, et qu'à ce moment-là, la déformation pourrait devenir possible, peut-être plus facile même, mais par un autre mécanisme. Le problème, c'est que si vous faites rouler les grains les uns sur les autres, et qu'au début, ils étaient bien au contact les uns des autres, comme dans l'image de la céramique que vous voyez là, si vous les bougez, vous allez créer un jour, vous allez créer un espace. Donc le matériau va se détériorer. Pour que ce mouvement des grains les uns par rapport aux autres puisse se faire, il faut qu'en même temps que vous fassiez le mouvement, des atomes viennent colmater la brèche. En termes techniques, il faut que le coefficient de diffusion des atomes soit suffisamment rapide pour suivre le mouvement des grains et boucher les espaces créés. Et ça peut se passer dans les céramiques, à condition de chauffer un petit peu. Alors un petit peu dans les céramiques, ça peut vouloir dire 1000 degrés, 1200 degrés, 1400 degrés, mais en tout cas des températures qui sont encore bien en deçà de la température de fusion. Et ça vous donne le type de comportement que vous voyez à droite, qui a été publié par une équipe japonaise cette année, où à une température dont je ne me souviens pas, doit être aux alentours de 1300 degrés, vous avez une céramique complexe qu'on a réussi à étirer, comme vous pourriez étirer un fil de verre fondu, ou un fil d'or, ou un fil de fer. Alors il est des cas où les propriétés de la matière résultent non pas de la taille nanométrique à laquelle on l'a contrôlée, mais de la manière dont vous l'avez organisée. Et un exemple que la nature maîtrise merveilleusement bien, c'est l'exemple qui est décrit dans le livre de Serge Berthier, c'est l'exemple des ailes de papillon. Les ailes de papillon ont des couleurs merveilleuses qui dépendent de la lumière avec laquelle on les éclaire, qui dépendent de l'angle sur lequel vous les regardez, et dont la couleur, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne résulte pas tellement de la présence de colorants, de pigments, mais résulte uniquement de la structure de l'aile. Il y a des pigments, mais ce n'est pas ça qui fait l'essentiel. Alors voilà une coupe typique de la structure d'une écaille de papillon. Vous voyez une structure porteuse, ce qui fait la solidité mécanique. Et puis vous voyez une couverture qui, quand on les regarde en détail, peut avoir des structures, selon l'espèce de papillon considérée, des structures extrêmement variées, mais toujours particulièrement fines et particulièrement précises. Je vais vous en montrer quatre. En voilà une. En voilà une deuxième plutôt unidimensionnelle. En voilà une autre en peigne, avec des branches de peigne opposées en quinconce. En voilà une dernière, qui est un arrangement tridimensionnel de petites sphères soudées entre elles. Alors le phénomène qui se passe dans ces structures-là est un phénomène remarquable. C'est un phénomène de diffraction des rayons lumineux sur cette structure-là, qui fait que sous un certain angle, comme dans tous les phénomènes de diffraction, certaines longueurs d'onde, donc certaines couleurs, vont pouvoir être réfléchies, vont sortir de la structure, alors que d'autres n'en sortiront pas. Et c'est ce qui vous donne ce chatoyement merveilleux. Alors ce type de structure périodique a, vis-à-vis de la lumière, une propriété remarquable qui n'a pas échappé aux gens qui songent à remplacer l'électronique par de l'optique, et là aussi Claude Velbuche vous en parlera en détail, c'est ce qu'on appelle la structure de réaliser, la propriété de réaliser des pièges photoniques. Quand vous avez des structures aussi régulières, avec un pas de répétabilité qui est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de la lumière que vous envoyez sur le système, eh bien, il est des longueurs d'onde sur lesquelles les phénomènes de diffraction font que la lumière de cette longueur d'onde ne peut pas se propager dans le cristal. Donc, si dans le cristal où cette longueur d'onde ne peut pas se propager, vous faites volontairement un défaut, la lumière ne pourra pas sortir de ce défaut. Par exemple, si dans un cristal de ce type-là, mais parfait, vous ôtez à un endroit précis, au cœur du matériau, quelques petites sphères, la lumière sera piégée dans cette cavité-là. Si vous, au lieu d'enlever quelques atomes, vous enlevez une rangée d'atomes, la lumière sera piégée dans le guide unidimensionnel. Si vous enlevez un plan, la lumière sera piégée dans le plan. Vous pourrez donc réaliser des pièges ou des guides d'ondes de cette manière-là. Donc il y a une activité de recherche intense en nanotechnologie pour mettre ces procédés à profit. Alors il y a deux grandes voies. Il y a les gens qui j'allais dire, sont issus de l'électronique et réalisent des structures par les techniques de l'électronique. Et puis il y a ceux qui sont plutôt issus des techniques du monde des colloïdes, de la biologie, de la matière dite molle, et qui essayent de faire ça, par exemple, dans des milieux aqueux, dans des solutions ou des suspensions de petites particules. Si vous faites des petites billes de polymère ou de silice, et si vous les laissez sédimenter, au bout d'un moment, vous aurez un empilement de petites sphères dans le fond de votre récipient. Mais le processus fabrique trop de défauts. Et récemment, dans les mois qui ont précédé aujourd'hui, une équipe a réussi, par un processus très simple, à réaliser des structures quasi parfaites. Ça consiste à faire une suspension, une dispersion de petites billes dans une goutte d'eau, de laisser évaporer la bille de manière contrôlée dans un gradient thermique. Donc la goutte d'eau s'évapore, le front entre l'eau et l'air recule, et à mesure que le front recule, les billes se déposent. Et ce que vous voyez, c'est que le dépôt de billes se fait avec un ordre remarquable. Eh bien, ces structures-là sont des structures qui possèdent toutes les propriétés requises pour faire ces structures à propriétés photoniques contrôlées dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le cliché n'est pas bon, mais vous voyez notamment à droite, ce sont des figures de diffraction produites par ce type de structure. Voici encore quelques images qui vous montrent la perfection et le contrôle que l'on peut obtenir de cette manière-là. Alors en 5 minutes, si j'ai encore 5 minutes, je termine en abordant maintenant le monde moléculaire et l'auto-association. C'est en quelque sorte la combinaison de tout ce que je vous ai dit. Et j'introduis le sujet en vous présentant une image issue d'un ouvrage scolaire qui sert de référence aux étudiants qui travaillent dans ce monde-là, le monde des structures moléculaires organisées. Et ce que vous voyez, c'est quelques exemples de structures que des molécules particulières, les molécules de savon, les molécules de tensioactifs, sont susceptibles de faire spontanément quand on les dissout dans l'eau. Une molécule de tensioactif, une molécule de savon, c'est une molécule qui a deux parties. En général, il y a une petite partie sphérique qui aime bien l'eau, qui est polaire, et puis une partie qui ressemble à un hydrocarbure en forme de chaîne qui se trouve très mal à l'aise dans l'eau. De telle sorte que quand on dissout ces molécules dans l'eau, les parties qui se trouvent mal à l'aise dans l'eau, les chaînes, vont avoir tendance à se regrouper en laissant à l'extérieur, en contact avec l'eau, les parties qui se sentent bien en milieu aqueux. Et parmi les structures les plus simples qu'on puisse faire, on voit des structures en sphère, ce sont les micelles sphériques que vous voyez là, mais vous voyez aussi des structures de type cylindrique, des structures en lamelles, qui sont des structures que la biologie met à profit pour faire les membranes de tout ce qu'on trouve dans la cellule comme structure membranaire, et de la cellule elle-même d'ailleurs, ou encore des objets plus complexes qu'on appelle des faces bicontinues que vous voyez au milieu de la colonne de droite. Alors ces structures-là peuvent être utilisées, elles aussi, en nanotechnologie pour faire des structures artificielles. Alors je saute directement à ces structures-là. Et une des applications, c'est aussi une vieille nanotechnologie. Il s'agit de la catalyse. Vous savez sans doute que la chimie n'a pas bonne presse, parce qu'on pense toujours aux accidents. En fait, la chimie est quand même une invention. Disons, l'industrie chimique est un monde qui a permis d'améliorer considérablement notre vie quotidienne et notre santé. Ce qu'il faut savoir, et ce que vous savez peut-être, c'est que 80% des réactions chimiques qui fabriquent tous nos matériaux, tous nos objets de la vie quotidienne, sont des réactions qui ne se produisent que parce qu'on les catalyse. Autrement dit, elles ne se produiraient pas spontanément, ou en tout cas ne se feraient pas aussi facilement spontanément. Et pour pouvoir les faire, il faut mettre quelque chose, il faut mettre les réactifs chimiques en contact avec une surface qui va fixer les molécules, modifier leur niveau énergétique et faire en sorte que la réaction soit possible. Et ces catalyseurs sont bien souvent déjà des petites particules métalliques ou des solides poreux dont la taille des pores est de l'ordre du nanomètre. C'est pour ça que je disais que la catalyse est une nanotechnologie avant la lettre. Eh bien, est-ce que vous voyez cela, pour illustrer mon propos, c'est une structure poreuse, qui est la structure poreuse que les pétroliers emploient pour raffiner le pétrole. C'est une zéolite de type, en termes techniques, ZSM5, dans laquelle on rentre les grosses molécules de pétrole et dans lesquelles ces grosses molécules de pétrole se décomposent pour former tout ce qu'on utilise. Alors, ce que les chercheurs américains et californiens ont eu l'idée de faire, et là aussi, il a fallu avoir l'audace de penser à faire ça, c'est de se dire, eh bien, prenons ces structures quasi-biologiques que les molécules de tensioactifs, que les molécules de savon font spontanément dans l'eau, et profitons de ces structures-là pour faire une réaction chimique qui va en quelque sorte fossiliser la structure et faisons un matériau solide dans ce milieu-là. Et bien, ce qu'ils ont fait, c'est ce que vous avez sous les yeux, ils ont fabriqué de la silice, qui est un matériau inorganique, la silice c'est du silex, c'est du sable, dans une solution savonneuse, bien contrôlée bien entendu, et le résultat, c'est un sable poreux, c'est une silice poreuse avec une structure remarquablement périodique, bien organisée, qui est la version fossilisée de la structure molle moléculaire que je vous ai montré précédemment. Les applications en dépollution, en catalyse ou dans d'autres domaines sont nombreuses. J'aurais aussi pu parler des structures qui sont des structures en développement qui vont servir de substitut au tissu osseux, qui lui aussi est une structure poreuse complexe du même type que celle que je viens de vous montrer. Je saute deux clichés pour vous montrer quelque chose qui reste dans le même domaine, mais qui est peut-être plus futuriste encore. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est les prémices de ce qu'on pourrait considérer être un virus synthétique. Bon, vous savez que vous avez probablement peut-être vu déjà des images de capsides de virus, pas mal de capsides de virus, donc c'est l'enveloppe dans laquelle se trouve le matériel génétique, l'ADN du virus. Certaines d'entre elles ont des formes très jolies, très, très spécifiques, notamment une forme icosaédrale comme celle que vous voyez là. Il y en a d'autres. Mais ce que les chercheurs du service de chimie moléculaire du CEA Saclay ont réussi à faire, c'est faire par auto-assemblage de molécules, alors pas n'importe quelle molécule, bien entendu, ils ont fait un choix bien précis de molécules dont ils pensaient qu'ils allaient pouvoir s'associer pour faire ce type de structure. Ils ont donc mis en solution ce mélange de molécules qui, spontanément, a réalisé ces structures-là qui sont en quelque sorte des capsides synthétiques de virus et qui possèdent cette propriété remarquable d'être aussi rigide qu'une capside de virus et de posséder au sommet de la structure, vous le voyez peut-être, de petits trous qui sont éventuellement des petits trous par lesquels on pourrait penser que ces structures-là, qui a priori sont biocompatibles, pourraient relarguer un ADN qu'on aurait mis à l'intérieur et qui pourrait pénétrer dans la cellule et faire un office, selon les objectifs que vous avez, un objectif bénéfique ou maléfique. Je termine en abordant un dernier domaine en une minute, c'est le domaine de tous les procédés. Alors, les nanotechnologies dans le domaine des procédés, notamment de la production d'énergie. Vous savez que nos téléphones portables, nos ordinateurs portables et de plus en plus de choses fonctionnent sur batterie. Et en fait, les batteries que nous utilisons tous à l'heure actuelle, des batteries dites ion-lithium, sont des batteries dans lesquelles à la fois les électrodes et les électrolytes solides, c'est bien miniaturisé, sont déjà des nanostructures dont les propriétés ont été optimisées par le contrôle des matériaux à l'échelle nanométrique. Ce que j'ai voulu vous illustrer là, c'est un autre domaine qui n'est pas encore opérationnel, sur lequel des équipes travaillent depuis 20 ans, qui ne débouchera peut-être jamais, mais qui débouchera peut-être. C'est la production d'énergie à partir d'énergie solaire avec des structures biomimétiques, mais à l'échelle nanométrique. Donc l'image de Gauss, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire de la photosynthèse déjà presque artificielle, simplement en passant des feuilles d'épinards, par exemple, ou des feuilles de salade au mixeur, en les dispersant dans de l'eau et en leur donnant les nutriments nécessaires. Si vous éclairez cette structure-là, les cellules vont continuer à faire de la photosynthèse, autrement dit à faire des matériels organiques à partir du gaz carbonique, à partir de l'oxygène de l'air et à partir de la lumière. Mais quand je parle de photosynthèse artificielle pour faire des combustibles ou des matériaux, c'est bien entendu aller plus loin un peu dans le procédé. Alors, le fil conducteur que certains suivent, c'est de se dire, eh bien, copions le mécanisme intime à l'échelle la plus fine de ce qui se fait dans la nature. Et ce qui se fait dans la nature, c'est quelque chose qui se passe à nouveau dans une membrane biologique, la membrane d'un organique qu'on appelle le thylakoïde, et qui se passe dans un ensemble de protéines. Et l'acte fondamental, c'est un acte dans lequel une molécule, la chlorophylle que vous connaissez bien, qui est verte, accepte un électron et met en branle toute une séquence, comme dans le processus photographique, de transfert d'électrons, qui aboutit à une extrémité de la chaîne que vous voyez en bas à droite, à donner un électron à une molécule qui va servir d'accepteur, et à prendre un électron à une molécule qui va servir de donneur à l'autre extrémité. Et avec l'électron excédentaire, vous allez faire une réaction qui, en termes chimiques, sera une réaction de réduction. Ça va être le processus qui va convertir le CO2 en sucre. Et l'autre extrémité, là où vous allez prendre l'électron, vous allez décomposer l'eau en oxygène. Et bien ce processus-là, certains l'ont copié de manière un peu idéalisée. Et c'est notamment l'équipe de Michael Gretzel à Lausanne qui s'est contentée de prendre le principe, mais qui, au lieu de prendre la molécule de chlorophylle, qui est une molécule extrêmement fragile, vous savez très bien que si vous laissez une feuille détachée de la plante à la lumière solaire, elle se fane très vite. Bien, ce que Michael Gretzel et d'autres d'ailleurs ont fait, comme Jean-Marie Lène en France, c'est de prendre des structures artificielles qui étaient différentes, mais qui fonctionnaient de la même manière. Dans l'exemple qui est illustré là, c'est un exemple dans lequel ce qui remplace la chlorophylle, eh bien, ce sont des agrégats nanométriques d'un semi-conducteur, l'oxyde de titane, qui fait l'acte élémentaire. Alors bien sûr, le processus ne fonctionne pas que grâce à ça. Il y a toute cette chaîne de transport d'électrons et de récupération des charges électroniques dont je vous ai parlé, qu'il s'agissait de mettre en branle. Alors pour terminer, un dernier exemple qui n'est pas réalisé, mais dont je pense, après en avoir discuté avec Claude Vesbuche, qu'il pourrait modifier la face de la Terre, c'est l'utilisation des nanotechnologies pour dessaler l'eau de mer. Alors vous allez me dire, mais on sait déjà dessaler l'eau. C'est vrai qu'on peut dessaler l'eau en l'évaporant, on peut faire de l'osmose inverse, mais à l'heure actuelle, aucun procédé n'est aussi efficace et aussi peu énergivore que notre rein, qui filtre nos fluides biologiques en laissant échapper la quantité d'eau qu'il faut, en retenant la quantité de sel qu'il faut pour que l'organisme soit à l'équilibre. Mais on peut penser sans exagérer que si une technique, une nanotechnologie parvenait à faire la même chose par des procédés biomimétiques, il y a probablement pas mal de conflits sur Terre qui seraient évités dans les prochaines années. Alors, pour clôturer mon exposé, sans image, je voudrais revenir un peu sur le début. Donc, j'ai essayé de vous illustrer les deux pôles de ce qui faisait le fondement des nanotechnologies. La maîtrise du très petit et puis la maîtrise de la hiérarchie et du complexe. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que ces choses-là, même si ça n'est pas totalement nouveau, ça se pratique quand même depuis un certain temps, l'ampleur que ça prend à l'heure actuelle modifie la manière dont nous faisons de la chimie, ça modifie la manière dont nous faisons de la chimie, de la physique, de la biologie et des sciences de l'ingénieur. En fait, actuellement, nous faisons tout ensemble. Et une manière de vous faire sentir ça, je pense, c'est par exemple de vous poser la question, est-ce que l'émail d'une dent est un matériau? Je pense qu'avec 2 secondes de réflexion, vous direz, bah oui, l'émail d'une dent, c'est un matériau, comme le fer est un matériau, avec l'émail, on fait la couverture d'une dent. Si je vous pose la même question à propos d'un os, la matière de l'os, bon, vous réfléchirez probablement un peu plus longtemps, mais vous répondriez oui, sans doute. L'os est quand même un matériau un peu particulier, c'est un matériau qui se guérit lui-même quand on l'a cassé. Tous les matériaux ne font pas ça. Si je vous repose la question dans un troisième cas, qui est le tissu musculaire, le tissu d'un muscle, là, la réponse est déjà beaucoup plus plus difficile à faire. Certes, les fibres musculaires, l'ensemble de fibres musculaires, la chair, la viande, c'est en quelque sorte un matériau, mais c'est aussi, on l'a vu, c'est un nanomoteur, c'est un dispositif. Et si je vous pose la question, est-ce que le cerveau est un matériau ? Le cerveau n'est jamais qu'un gel d'objets très dendritiques, très compliqués, qui s'enchevêtrent. Là, la question, elle devient carrément troublante. Alors, ce que j'ai voulu vous dire par là, c'est qu'en fait, cette démarche qu'on suit dans les technologies, elle gomme toutes les frontières entre les notions de matériaux, de dispositifs et de procédés. La matière devient le dispositif. La matière est le procédé. L'ensemble ne fait plus qu'une seule chose. Et ça modifie profondément la matière dont on fait de la science et de la technologie. Je vous remercie pour votre attention.
Je vous remercie pour cet exposé très intéressant et très vaste, surtout. Mais je voudrais revenir un peu sur la question, sur le problème que vous avez évoqué du mouvement à partir du hasard.
Oui.
Si vous voulez, je vais prendre un exemple brutal. Et je pense d'abord que vous serez d'accord avec moi pour vous dire qu'on fait de la nanobiologie depuis des millions d'années. Tout à fait d'accord. Bon. Mais je veux prendre cet exemple un peu parlant. Vous prenez par exemple la division cellulaire. Vous savez qu'il se produit au moment de la mitose une plaque équatoriale où se mettent les chromosomes, et les chromosomes migrent vers les pôles de la cellule à l'aide de toute une armature qui se fabrique à base de tubuline. Autrement dit, il y a un véritable squelette qui se met en place. Alors je vois mal, n'est-ce pas, on voit les chromosomes ensuite qui sont attirés vers les deux extrémités de la cellule. Et on voit mal le hasard, votre mouvement brownien, là, qui je ne vois pas.
Alors, je pense que la première chose que vous êtes en train de dire, c'est qu'on n'a pas tout compris. Et là, je suis évidemment d'accord avec vous. La deuxième chose que vous êtes en train de dire, c'est que, effectivement, il n'y a pas que le hasard, le mouvement brownien, pour parler en termes techniques, qui génère des mouvements dans les structures cellulaires. Ça va de soi également. Je pense que nous sommes un mélange de processus déterminés par notre matériel génétique et les spécificités biochimiques de nos constituants, mais que ces constituants ont peut-être la bonne idée de tirer profit des sources d'énergie disponibles à leur échelle. Le mouvement brownien est une source d'énergie dont nous ne pouvons pas profiter. Nous en profitons de manière indirecte dans nos machines thermiques, mais c'est une manière tellement grossière d'en profiter que je ne l'ai pas mentionné.
Oui, non, hein, il viole en principe le deuxième principe de la thermodynamique, si vous voulez. Hein,
Donc, je suis d'accord avec vous que la biologie, c'est quand même avant tout un ensemble de processus déterminés par des spécificités et une information qui est contenue dans le matériel génétique, mais ce qui n'empêche que chaque fois que ça a été possible, les processus biologiques tire profit de sources d'énergie dont nous ne tirons pas profit, mais dont nous pourrons tirer profit, nous pouvons déjà tirer profit à partir du moment où nous maîtrisons ce qui se passe à cette échelle-là. Je pense que allez voir le site web de Montemagno, oui. Sur son moteur moléculaire, et vous serez convaincus.
À partir de quelle dimension on ne peut plus parler de nanotechnologie ?
Ah. Alors, à partir de quelle dimension est-on dans le domaine des nanotechnologies ? Alors, c'est un vieux conflit entre puristes et laxistes, est trop fort, mais disons moins puristes. Alors, vous savez que le mot micro, il est déjà entré dans les mœurs depuis très longtemps, et la référence au système métrique est la référence naturelle. Donc, les microtechnologies, c'est la maîtrise de la matière, des dispositifs, des procédés à l'échelle du micron. Les années faisant, les améliorations se faisant, les microtechnologies, notamment en électronique, ont dépassé le micron et sont submicroniques. Alors je dirais qu'il n'y a pas de frontière bien précise. Un collègue, Christian Joachin, qui vous parlera la semaine prochaine, est lui très puriste sur le sujet. Et pour lui, on ne peut vraiment parler de nanotechnologie que à partir du moment où on entre dans le monde moléculaire et des effets quantiques. Moi, il me semble que ce que j'ai essayé de vous dire en conclusion, qui est cette nouvelle manière d'aborder la chimie, la physique et les procédés, en fait, elle se met en place bien avant l'échelle strictement nanométrique. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect petit, il y a tout cet aspect organisationnel qui, lui, est déjà en place et est valable dès qu'on aborde des échelles submicroniques. Donc, il y a deux écoles, disons. Voilà.
S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer comment on peut passer du stade de laboratoire, c'est-à-dire la fabrication de l'aiguille et la manipulation de l'atome lui-même, au stade industriel pour arriver où nous en sommes actuellement pour fabriquer des bandes de lecture ou des têtes de lecture?
Alors, quand il s'agit d'un objet unique, ça ne pose pas de problème. Comme par exemple une tête de lecture magnétique, vous avez vu que c'est une multicouche par magnétorésistance géante, c'est une multicouche de couches magnétiques et de couches non magnétiques. On fait une tête, on fait une grande surface sur laquelle ces couches sont alternées. On peut découper des petits morceaux et en faire une multitude de têtes. Le vrai problème, c'est celui que vous évoquez en commençant. C'est à partir du moment où on essaye de faire, alors je prends de nouveau un exemple ludique, qui est un petit bonhomme à 28 atomes de 28 molécules d'oxyde de carbone, et imaginons qu'on puisse faire quelque chose à ce petit bonhomme-là, comment dupliquer ça en centaines de milliers et en millions d'exemplaires? Ben la communauté des gens qui travaillent dans ce domaine-là pense généralement que la seule solution viendra des nanotechnologies eux-mêmes. Ça viendra à partir du moment où on maîtrisera des nanomachines ou des nanorobots qui pourront faire en un nombre d'exemplaires suffisamment important ce genre d'objet. Donc c'est pas évident que ça puisse se faire dans les mois ou les années très très proches. Mais c'est un vrai problème. Sans aucun doute.
D'abord, est-ce qu'en France on est en avance ou en retard sur ce développement des nanotechnologies? Deuxièmement, quels sont les outils clés pour avancer rapidement dans la recherche et le développement?
Bon, alors la situation mondiale. Les États-Unis font depuis 2 ans maintenant un effort sans précédent. Et quand je dis sans précédent, ce n'est pas tout à fait vrai. Si on regarde en termes de motivation de la communauté scientifique, il y a un précédent, mais qui est lui alors pas scientifique, qui était purement technologique, c'est la conquête de la Lune. À l'époque de la conquête de la Lune, la communauté scientifique et technologique américaine a eu à sa disposition des fonds absolument colossaux et était motivé pour faire un effort qui ne s'est plus refait depuis. Bien, depuis 2 ans, et ce qui est remarquable aux États-Unis, c'est que ça s'est fait à l'initiative, non pas de la base, mais des autorités. C'est mis en place un système qui n'approche pas, financièrement parlant, le montant des efforts consentis en 69 pour poser le pied sur la Lune, mais qui motive de manière remarquable l'ensemble de la communauté scientifique. Il est, en termes d'efforts par chercheur ou d'efforts par personne, 4 ou 5 fois supérieur à ce qui se fait au Japon. La France a pris le mouvement avec un peu de retard. Actuellement, je pense que Claude Melbuge peut me contredire, mais on est à un facteur 3, 4 en dessous de ce que les Américains font à l'heure actuelle. On est loin en arrière en ce qui concerne la formation des jeunes. Au niveau des DEA, par exemple, il existe en tout et pour tout en France à l'heure actuelle 2 DEA, 2 diplômes d'études approfondies qui initient les jeunes de manière générale aux nanotechnologies. Donc c'est très peu de choses. Il n'y a aucun endroit actuellement en France, mais je pense, d'après ce que le ministère nous dit, ça peut changer très tôt, d'ici l'an prochain peut-être. Il n'y a aucun endroit en France où a été créé volontairement un pôle nanotechnologique où on aurait mis ensemble des gens venant de disciplines différentes avec les moyens qu'il faut. Ce qui s'est fait, par exemple, en Allemagne. Alors, vous aviez une deuxième partie à votre question, c'était... Pardon.
Oui, enfin, sur ce que vous avez dit, il y a même Grenoble où on essaie de faire ça.
Oui, mais absolument.
Dans la deuxième question, quels sont les outils,
les outils
majeurs qui permettraient donc, de rentrer dans la course rapidement? Alors,
c'est un peu provocateur, ce que je vais dire. Mais les outils majeurs, c'est l'audace d'inventer des choses et de croire qu'elles sont réalisables. Je reprends l'exemple du moteur de Montemagno. C'est vrai que pour faire cette chose-là, il fallait maîtriser le génie génétique pour faire en sorte que l'enzyme possède les bons groupements qui puissent la fixer sur un support en nickel. il fallait posséder les techniques qui permettaient de fixer le petit bras de levier sur la molécule. Il fallait posséder les techniques permettant de visualiser, de positionner l'ensemble. Mais le plus dur, c'était presque d'imaginer que ça pouvait se faire. Donc, au niveau des outils, par exemple les microscopes à force atomique, je pense que tous les laboratoires qui travaillent dans des domaines, dans ce domaine-là ou dans les domaines connexes en France en possèdent un ou plusieurs. Donc, on n'est pas trop en retard dans ce domaine-là. En revanche, il y a un domaine dans lequel on a un gros effort à faire, c'est le domaine des salles blanches, donc des salles exemptes de poussière, d'impuretés, qui permettent de faire de manière très propre ce type de manipulation. Puisque j'ai le plaisir de travailler à l'école de physique-chimie, il y a un projet par exemple de salle blanche à l'école de physique-chimie de la ville de Paris qui n'est pas encore réalisé. Une délégation d'école a été récemment à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, à Lausanne, pour parler de ce problème-là. Eh bien, à l'école, à l'EPFL à Lausanne, il y a 5 salles blanches dans la même école. Donc, nous avons un effort à faire.
Les nanomoteurs tournent toujours dans le même sens. Est-ce que ce sens est prévisible?
Alors, le sens dépend du cliquet.
Horaire ou anti-horaire?
Oui. Alors, je ne suis pas sûr que ma réponse soit correcte parce que je ne maîtrise pas tous les éléments que je vous présentais tellement c'est vaste. Je pense qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle la source de l'asymétrie, l'apostrophe asymétrie, du cliquet moléculaire qui contrôle le mouvement des protons dans le système et qui fait que ça tourne dans ce sens-là. Mais je ne suis pas sûr de ma réponse. Donc je la réserve.
Henri Vandamme, je vous remercie.
Merci à vous.